Voilà, content de vous retrouver et nous bénissons notre Dieu pour ce temps de louange et d'adoration. Et nous rendons grâce, comme cela a été dit et précisé, à notre Dieu pour la paix qu'il nous donne. Dans l'évangile de Luc, en tout cas dans la parole de Dieu, comme je suis dans l'évangile de Luc, il y a deux passages avant le texte que nous allons voir ce soir, où il est parlé aussi de la paix que le Seigneur apporte lorsque les disciples se trouvaient dans la barque et il y avait cette tempête. Et le Seigneur Jésus a apaisé la tempête et il a reproché à ses disciples de manquer de foi parce qu'ils étaient agités. Et il a apporté la paix aussi dans le cœur de cet homme qui était possédé de plusieurs démons. Et le Seigneur lui a demandé par la suite d'aller dire à ses proches, aux gens de sa famille, ce qu'il avait fait pour lui. Oui, le Seigneur, il apporte la paix à l'extérieur comme à l'intérieur. Et il est celui qui apporte la paix et il a manifesté sa puissance envers nous et pour l'homme, pour justement lui apporter la paix. Et donc Jésus, il a démontré sa puissance par ses biens. Et en cela, aujourd'hui, j'aimerais donc nous encourager à manifester notre foi en notre Seigneur, malgré les oppositions qui peuvent se dresser contre nous. Manifester notre foi en lui, puisqu'il nous a apporté la paix, puisque nous avons trouvé en lui la paix. Et le texte que nous allons lire se trouve dans Luc chapitre 8, les versets 40 à 56. Et nous verrons aujourd'hui que manifester notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons le faire en lui faisant connaître nos besoins, en mettant cette foi en action, mais aussi en attendant sereinement sa réponse. Et j'aimerais lire donc avec vous ce texte de Luc chapitre 8, les versets 40 à 56. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Donc il était au départ du côté de Capernaum, il est descendu du côté de Gadara et là il est reparti parce que les gens de Gadara lui ont dit de ne pas rester là après qu'il ait chassé ses démons chez cet homme. Et donc il retourne du côté de Capernaum, donc d'où cette expression. Donc à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chef Comme il parlait encore, survint le chef le pardon. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant : Ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte : Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Manifester sa foi en Jésus, déjà dans un premier temps, on peut le faire en lui faisant connaître nos besoins, notamment par la prière. Donc Jaïrus, ce chef de la synagogue, montre sa foi en Jésus en lui adressant cette prière en faveur de sa fille de 12 ans. Le texte nous dit que c'était sa fille unique. Sa fille, elle était mourante. Et en prenant le texte parallèle qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5, Marc nous dit « Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. » Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et donc, Luc nous dit que ce Jaïrus, le chef de la synagogue, se jette aux pieds du Seigneur et le supplie d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait donc cette fille qui était mourante. Il avait peut-être rencontré Jésus lorsque Jésus était déjà passé par Capernaum, lorsqu'il est entré dans la synagogue où le Seigneur avait délivré un démoniaque. Ça, on le lit dans Luc chapitre 4, versets 31 à 37. Et donc, ce chef avait déjà eu une rencontre avec Jésus. Il avait pu voir ce que Jésus-Christ a fait. Mais Jésus, il a continué sa route. Et là, il apprend que Jésus est de retour à Capernaum. Et donc, sachant ça, il va tout faire pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, croyant que c'est lui seul qui pouvait faire quelque chose pour sa fille qui était mourante. Alors, j'aimerais que nous observions ensemble l'attitude de ce chef. Il vient donc aux pieds de Jésus. Il se jette à ses pieds. C'est quelqu'un qui est connu dans la ville ou dans le village. Tout le monde sait qui il est. Et lui, il n'hésite pas à venir et s'incliner aux pieds de Jésus, malgré ce que les uns ou les autres pourraient dire. Là, ça montre qu'il ne regarde pas à sa position, mais il s'humilie devant le Seigneur. Il fait part à Jésus de la situation de sa fille dont il sait qu'elle est à l'extrémité, donc elle va mourir. Et cet homme croit que si Jésus lui impose les mains, elle sera sauvée et elle vivra, nous dit Marc. Donc là, ce que je veux noter, c'est que face à son besoin, pour lui, Jaïrus, la solution, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. C'est Jésus qui peut sauver sa fille. Il ne regarde pas à ce que pourraient dire les gens. Il ne regarde pas à sa position, à quelle est sa fonction. Mais il vient, il s'humilie devant le Seigneur. Il se jette à ses pieds alors qu'il y a là une foule qui presse le Seigneur. Que fait Jésus? Jésus répond à sa demande. Jésus s'en alla avec lui. Jésus part avec cet homme. Le texte ne nous dit pas quel échange qu'il a pu avoir avec eux, mais le Seigneur décide, accepte d'accompagner Jaïrus chez lui. Il accepte d'accompagner cet homme qui est dans une grande détresse. Et là, notre Seigneur manifeste par sa présence son soutien dans l'épreuve, tout en sachant ce qu'il allait faire. Donc, frères et sœurs, nous pouvons, un peu comme Jaïrus, présenter à notre Seigneur la situation de nos proches. Nous pouvons prier, dire à Dieu, présenter à Dieu ceux qui sont malades, ceux qui sont même mourants, ceux qui, comme la fille de Jaïrus, sont à l'extrémité. Et de manière plus générale, nous pouvons implorer la grâce de notre Seigneur pour ceux et celles qui sont mourants sans même le savoir. Car personne ne connaît la durée de sa vie, puisque la vie d'un homme ne tient qu'à un fil. Donc, d'une certaine façon, nous sommes tous, toutes et tous, des mourants. La fille de Jaïrus n'avait que 12 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour mourir. Elle n'avait que 12 ans. Quel que soit notre âge, le moment de notre départ approche. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 2 Timothée 4, verset 6, il est en prison. Il sait que c'est la fin, et c'est ce qu'il dit. Même si je sers déjà de libation, car le moment de mon départ approche. Le moment du départ approchait pour cette jeune fille de 12 ans. L'apôtre Paul savait qu'il était prêt. Il s'était préparé pour ce moment, pour ce départ. Et là, cette fille de 12 ans, est-ce qu'elle était prête pour ce départ? Le père devait certainement savoir que sa fille n'était pas prête. Le père savait que cette fille qui allait mourir, qu'il n'allait plus la revoir. Non seulement parce qu'elle ne serait plus là avec lui, mais qu'est-ce que serait son éternité? Vous savez, dans le psaume 39, verset 6, il est dit « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la mer, et ma vie est comme un rien devant toi. » Il dit « Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Et c'est ce que Jacques explique aussi. On peut lire ce passage dans Jacques chapitre 4. La vie de tout homme debout n'est qu'un souffle. Dans Jacques chapitre 4, verset 13, il dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Jacques nous dit que Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et donc celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché, il dit. Et le plus grand péché, c'est de refuser de croire en Jésus. C'est ça le plus grand péché. Et puisque ce qui est faire le bien, qui est de croire en Jésus, il n'y a rien de meilleur. Refuser de croire, refuser de faire ce bien-là, c'est commettre un péché. Et donc, péché, c'est vouloir ignorer volontairement les paroles de Jésus et de ses apôtres. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 11, nous dit, voilà, par rapport à la mort, nous sommes tous et toutes qu'un souffle, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Mais si vous avez mis votre confiance en Jésus, comme Lazare dans ce passage de l'évangile de Jean chapitre 11, Lazare avait mis sa confiance en Jésus comme ses sœurs Marthe et Marie. Donc Lazare est mort, et alors j'ai prévu de lire les versets 21 à 27, mais après on va lire le tout début. Donc on va, si vous le voulez bien, je vais lire avec vous les premiers versets dans Jean chapitre 11, comme ça sera fait. Il dit qu'il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Après, on continue au verset 20. Donc, Lazare, il va mourir. Il dit, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Le plus grand péché, c'est de ne pas croire en la parole de Jésus. Et par rapport à la mort, le Seigneur Jésus, il dit que parce que Lazare avait mis sa confiance en lui, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Par contre, concernant les non-croyants, ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus, l'apôtre Paul, il dit dans 2 Thessaloniciens, versets 7 à 9, dit « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Jésus va revenir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur aussi a dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous sommes toutes et tous des mourants. Mais la question c'est, est-ce que vous êtes un mourant qui est prêt pour retrouver votre Seigneur? Ou est-ce que vous êtes un mourant qui n'avait pas encore fait la paix avec Dieu et qui sera jugé et qui sera puni et qui sera jeté dans l'étang de feu? C'est deux positions. Et cette jeune fille, à 12 ans, elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Son père, avant, ne connaissait pas le Seigneur. Il a vu, il a entendu, et il a mis sa foi en Jésus, croyant que c'est lui qui pouvait sauver sa fille. Et il a intercédé pour elle. Il est venu au pied de Jésus pour que Jésus puisse sauver cet enfant. Et nous pouvons, frères et sœurs, intercéder aussi pour nos proches, tous ceux et celles qui sont encore éloignés de Dieu, tous ceux et celles qui n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus, tous ceux et celles qui sont des mourants, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Nous devons intercéder pour eux, puisque nous croyons que c'est Jésus seul qui peut les sauver. Et Jaïrus nous donne ce modèle, il nous donne cet exemple. Il nous montre que si nous avons vu la puissance de Jésus agir en nous, et que alors c'est Jésus qui peut sauver l'autre comme il nous a sauvés. Et face donc aux situations extrêmes, là encore nous devons manifester notre foi en notre Seigneur, en lui faisant connaître nos besoins. Et le Seigneur, il agira selon sa grâce. En attendant la délivrance, n'oublions pas que notre Seigneur est là à nos côtés, comme il a été aux côtés de Jaïrus pour l'accompagner, pour aller avec lui dans sa maison. Et le Seigneur nous promet cela, comme cela a été cité aussi ce matin dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans Éphésiens, chapitre 3, versets 20 à 21, il dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Oui, nous croyons que le Seigneur Jésus peut faire infiniment plus que ce que nous lui demandons. Donc, intercédons, prions. L'autre chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que nous pouvons manifester notre foi en notre Seigneur Jésus en mettant cette foi en action. Et c'est ce que cette femme a fait, cette femme qui était atteinte donc, d'une perte de sang depuis 12 ans. Malgré le fait d'avoir tout essayé pour trouver la guérison, elle voyait sa situation qui s'empirait de jour en jour. Ni son argent, ni les médecins n'ont pu lui donner le repos auquel elle aspirait. Mais un événement va venir bouleverser sa vie. Elle entend parler de Jésus. Et elle va placer sa confiance, elle va placer sa foi en Jésus-Christ, ayant la ferme assurance que seulement le Seigneur, que si elle pouvait venir au pied du Seigneur et toucher le bord de son vêtement, elle serait guérie. Donc là, elle entend parler de Jésus. L'autre événement, c'est que, et qui sera décisif pour elle, elle va voir Jésus qui passe. Là, pas très loin, peut-être de chez elle, et puis elle voit la foule. Elle voit le Seigneur Jésus qui passe. Elle voit donc toute cette foule-là autour de lui. Alors, elle a entendu parler de lui, et elle s'est dit, certainement c'est lui qui pourrait faire quelque chose pour moi, donc et si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement. Et là, elle voit le Seigneur Jésus qui passe. Est-ce qu'elle va rester chez elle? Ou est-ce qu'elle va mettre sa foi en action et dire, voilà, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Et donc, elle va se déplacer. Elle va sortir. Et elle va affronter cette foule tout en sachant qu'elle est impure et que normalement, elle est exclue de la société. Elle ne va pas regarder à tout cela parce qu'elle sait que la seule chose dont elle a besoin, c'est de toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Elle va mettre sa foi en action. Cette femme est un exemple pour nous. C'est bien d'avoir la foi, mais c'est mieux de mettre sa foi en action. Parce que la foi, je dirais, qui n'est pas agissante, elle est morte. Et cette femme, elle savait qu'il fallait qu'elle touche le bord de son vêtement, le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Et si elle n'avait pas pris la décision de se déplacer, d'aller, d'affronter cette foule et de toucher le bord de son vêtement, elle ne serait pas guérie. Donc, elle a eu cette pensée et elle l'a fait. Même si elle était effrayée, même si elle était toute tremblante, elle ne s'est pas laissée paralyser par la peur. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur Jésus et lui a dit toute la vérité. Peut-être souffrez-vous de mal que vous êtes seul à connaître, comme cette femme. C'est elle seule qui savait quel était son mal. Vous avez peut-être tout essayé pour trouver un semblant de repos, mais vous ne l'avez pas trouvé. Peut-être, comme cette femme, vous avez dépensé tout votre argent auprès des médecins et peut-être autre chose et vous n'avez pas trouvé le repos, vous n'avez pas trouvé la guérison. Ce texte nous montre et nous rappelle que Jésus est tout puissant pour nous guérir de toute maladie. Et c'est ce que dit le psalmiste David dans le psaume 103. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Le Seigneur, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Le Seigneur guérit les maladies par le biais des médecins, à qui il a donné les capacités, l'intelligence, tout ce qu'il faut pour apporter le soulagement, pour apporter la guérison. Donc, il ne faut surtout pas le négliger. Et on peut rendre grâce à Dieu pour les médecins, mais lorsque nous allons voir les médecins, moi en tout cas, c'est ce que je fais, Seigneur, je vois le médecin, je prie pour lui et que tu l'éclaires, que tu lui montres ce que j'ai et puis qu'il me donne le médicament approprié. Voilà. Qui ne se trompe pas. Ça peut arriver aussi. Mais le texte nous montre que les médecins, parfois, ont leurs limites. Mais que pour Dieu, il n'y a pas de limites. Et le Seigneur peut faire de manière surnaturelle, il peut délivrer, il peut sauver, il peut guérir, et selon sa volonté souveraine. Et j'ai vu là, donc je partage avec vous trois exemples. Donc ce texte de Jean chapitre 11 qu'on a lu, l'exemple de Lazare, il était malade aussi. Et on vient dire à Jésus, celui que tu aimes, il est malade. Jésus, il reste 2 jours, il n'est pas parti tout de suite. Et entre-temps, Lazare, il meurt. Et le Seigneur dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le Seigneur Jésus aurait pu juste dire quelque chose et puis Lazare serait guéri. Il aurait pu y aller tout de suite, voir Lazare, lui imposer les mains et il serait guéri. Il n'a rien fait. Le Seigneur apporte la guérison en son temps, comme il veut et s'il le veut. Et il voulait manifester sa puissance en, non seulement en guérissant, mais encore plus en ressuscitant Lazare. Mais il aurait pu le guérir de sa maladie avant. L'exemple de Paul que nous connaissons bien, c'est dans 2 Corinthiens 12, c'est lorsqu'il a eu cette écharde dans la chair, il dit que le Seigneur, le Satan, un ange de Satan lui a souffleté cette écharde. Et j'ai prié le Seigneur 3 fois de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le Seigneur aurait pu enlever cette écharde. Mais il a décidé de ne pas le faire. Et donc, Paul a gardé cette écharde pendant peut-être toute sa vie, toute sa vie de chrétien, pendant son ministère, pendant toute sa vie, il avait cette écharde qui lui rappelait qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et que ce n'est pas la grâce de Dieu seule qui pouvait faire ce qu'il faisait. L'autre chose, l'autre exemple, c'est l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui, à Gethsémané, il va se retrouver avec ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Les autres, ils vont les laisser un peu plus loin et il va leur demander de prier avec lui. Et le Seigneur, là, il va adresser à Dieu le Père cette prière, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le Père pourrait éloigner cette coupe, la mort. Il va revenir, il va prier une deuxième fois. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Mettre en action sa foi, c'est croire que Dieu est tout puissant pour faire une chose, agir en conséquence, tout en se soumettant à la sainte volonté de Dieu. Dieu est tout puissant pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Il peut guérir de la maladie ou il peut décider de ne pas le faire. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous manifestions cette foi, comme cette femme l'a fait, parce que nous croyons qu'il peut le faire. Maintenant, Seigneur, que ta volonté se fasse. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Peut-être que votre mal est un péché que vous traînez comme un boulet depuis des années. Le mal, ce n'est pas forcément une maladie. Il y a certains, ce mal, c'est la recherche de la religion parfaite. Vous avez peut-être fait des expériences dans plusieurs religions, ou bien le mal, c'est de trouver l'église parfaite. On va d'église en église et on ne le trouve pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous entendez parler de Jésus, vous entendez parler de sa puissance, vous entendez parler de son amour pour l'homme et pour vous. Aujourd'hui, vous entendez qu'il est celui qui peut vous donner du repos, qui peut vous apporter la paix dans votre cœur, comme cela a été souligné ce matin. Aujourd'hui, vous entendez que c'est lui qui peut vous guérir de ce mal incurable qu'est le péché. Jésus, il est le seul moyen de salut. Il n'y en a aucun autre. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous avez entendu tout cela. Qu'allez-vous faire? Allez-vous rester là et laisser Jésus passer? Et puis, oublier? C'est peut-être la seule chance que vous avez de le voir. C'est peut-être la seule chance que vous avez de l'entendre. Alors, aujourd'hui, comme il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est jour de salut. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre votre foi en action et de saisir cette grâce. Et si vous avez déjà fait ce pas de la foi, vous seul savez ce que le Seigneur a fait dans votre cœur, comme cette femme. Elle l'a fait, elle savait qu'à l'instant, elle était guérie. Elle seule savait. Mais le Seigneur Jésus a voulu qu'elle puisse témoigner publiquement, qu'elle puisse dire ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous qui avons été délivrés de nos péchés, nous qui avons été guéris, le Seigneur nous demande de rendre témoignage de ce qu'il a fait. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 10, versets 8 à 13, il dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour nous. La troisième chose, c'est d'attendre sereinement la réponse du Seigneur. Jaïrus, il avance. Le Seigneur Jésus s'est arrêté pour s'entretenir avec cette femme. Mais lui, il est là. Sa fille, elle est mourante. Je ne sais pas, mettez-vous un peu à la place de Jaïrus. Peut-être, moi je l'ai dit, mais c'est plus important ma fille. Elle a un certain âge, ce n'est pas grave. Moi, ma fille, elle a 12 ans, c'est peut-être plus une priorité. Allez Jésus, dépêche-toi un peu. Là, je note que ce n'est pas du tout l'attitude qu'il a eue. En tout cas, la parole de Dieu, il y a un silence par rapport à ça, et ce silence traduit cette sérénité. Ce silence traduit le calme dont il a fait preuve parce qu'il sait que Jésus, le Tout-Puissant, est à ses côtés. Et on vient lui dire que sa fille est morte, qu'il n'y a plus rien à faire de laisser le maître. Et là, cet homme, au lieu de s'écrouler par terre parce qu'il entend que sa fille est morte et qu'il n'y avait plus rien à faire, il est là. Le Seigneur Jésus le rassure tout de suite. ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et Jaïrus, finalement, va adopter l'attitude du Seigneur. Il ne va pas tenir compte des paroles de la foule, de ce que les gens de sa maison viennent de lui dire, que sa fille est morte. Il ne va même pas laisser cela venir le perturber. Il va garder cette parole du Seigneur. Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. C'est la seule pensée qui va l'accompagner. Et c'est là l'opposition dont je parle. Il va mettre sa foi en Jésus malgré cette opposition. Il ne va pas laisser ce que peuvent dire les gens venir le perturber. Et lorsqu'il arrive dans sa maison, il trouve cette foule bruyante et des gens qui pleurent, mais lui, il ne se laisse pas envahir par ses émotions. Il sait que Jésus est là, que Jésus va intervenir, et il fait pleinement confiance à Jésus-Christ. Jaïrus nous encourage à attendre sereinement la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de nos proches. Les enfants inconvertis, le mari difficile, le patron insensible, la maladie d'un proche. Nous prions, nous faisons ce que le Seigneur nous met à cœur de faire, nous témoignons, mais aussi nous attendons. Nous attendons que le Seigneur agisse et en attendant, il nous dit, ne crains pas, crois seulement. Donc, soyons patients comme Abraham qui a persévéré et a obtenu ce qui lui avait été promis. Soyons patients comme Job, il est dit dans Jacques chapitre 5. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il y a la patience aussi de Siméon qui attendait la venue de son Messie. L'apôtre Paul nous encourage, il nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Mais pour avoir cette patience, frères et sœurs, qui va nous permettre d'attendre sereinement la réponse de Dieu, il est nécessaire que nous nous laissions sanctifier par notre Dieu. Dans Thessaloniciens, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs et irréprochables. Et tout cela pour être fortifié par sa puissance glorieuse. Il est dit dans Colossiens 1:11, afin d'être toujours et avec joie, persévérant et patient. En attendant, cette sérénité, le Seigneur nous le donne parce que nous le laissons agir en nous. L'autre chose, c'est de voir l'épreuve présente comme un moyen voulu par Dieu pour parfaire cette sanctification. Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors le Seigneur va utiliser tout cela pour nous faire grandir. Notre foi sera mise à l'épreuve, mais ça sera dans le but de nous aider à grandir, à progresser dans cette patience. Donc c'était là l'encouragement d'aujourd'hui. Manifester cette foi en notre Seigneur, comme l'ont fait Jaïrus et cette femme, en faisant connaître à Dieu nos besoins par la prière. Donc il faut nous approcher de Dieu avec humilité et confiance, nous jeter à ses pieds et lui dire ce que nous avons sur le cœur, prier pour celui ou celle que nous connaissons qui est qui est mourant et qui a besoin vraiment de la délivrance du Seigneur. Mettre notre foi en action en faisant ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. Et il est important de donner gloire à Dieu en rendant témoignage publiquement de ce qu'il a fait pour nous. Et puis la troisième chose, c'est attendre sereinement la réponse du Seigneur et que cette parole qu'il a adressée à Jaïrus soit pour nous. Ne crains pas, crois seulement. Que le Seigneur soit béni. Amen.